coup que j'avais l'intention au début de passer en revue les principaux mécanismes, les principales politiques de justice transitionnelle qui ont été élaborées et imaginées en Roumanie après la chute du régime communiste. Donc, confronter le passé récent suppose, comme ma collègue l'a déjà mentionné en utilisant les données, des statistiques, une multitude de pratiques ou de méthodes visant à questionner ou à réévaluer ou à assumer le passé récent. Et ces mesures juridiques et politiques comprennent des normes visant l'accès aux archives, déjà mentionnées, la création des commissions historiques pour l'étude du passé, l'investigation pénale des responsables des crimes, l'exclusion temporaire des fonctions publiques de l'ancienne élite politique ou la réhabilitation des victimes de l'ancien régime, ou bien la restitution des propriétés confisquées par l'ancien régime, et la liste est loin d'être exhaustive. Mais au lieu de dresser cet inventaire et cette chronologie des projets législatifs, je me contenterai de faire deux observations générales. Je voudrais dire premièrement que la nécessité de se délimiter du passé dictatorial est devenue, immédiatement après la chute du régime communiste, une sorte de grande narration du post-communisme roumain. Les élites tentèrent de légitimer le nouveau régime démocratique, y compris à travers une délimitation du régime précédent qui allait au début des années 90 jusqu'à des gestes symboliques extrêmes comme l'interdiction pour une période déterminée, l'interdiction du Parti communiste en Roumanie. Et le clivage qui opposait les partis soi-disant successeurs du Parti communiste aux partis qui se définissaient comme des partis historiques ou des partis anticommunistes a dominé la scène politique roumaine tout au long des années 1990. Et de plus, le positionnement de ces partis par rapport aux différentes politiques de la justice, de la justice transitionnelle, et le principal élément qui a structuré ce clivage. Mais en dépit de l'omniprésence au niveau discursif de la justice transitionnelle, la création des instruments politiques et des instruments juridiques est tardive et partielle. L'un des exemples a été déjà donné par ma collègue, l'exemple de l'accès aux archives de la Securitate, où on a une loi élaborée à la fin des années 90, 1999, et on n'a pas des archives réellement transférées à l'institution censée de les gérer et de les mettre à la disposition du public. Un autre exemple est aussi la loi de l'illustration, ce principe qui a été énoncé dès les jours de la Révolution, mais qui n'a jamais été mis en pratique, qui n'a jamais pris la forme d'une loi, en dépit du fait qu'il y a plus de 10 projets législatifs qui ont été discutés par le Parlement sans qu'aucun soit adopté. Si en ce qui concerne la justice transitionnelle, je me suis convenablement contentée de faire ces deux remarques, je voudrais maintenant m'attarder un petit peu sur la question de la gestion du passé récent en Roumanie d'une perspective différente. La relation entre les politiques de gestion du passé et les politiques de gestion de l'espace urbain. Plus exactement, qu'est-ce qui reste du communisme si l'on regarde les monuments publics en Roumanie ou si l'on regarde la toponymie en Roumanie? Et je pourrais dire presque rien je pourrais répondre à cette question presque rien, et cela dès 1990. En mars 1990, fut déboulonnée à Bucarest la statue de Lénine, qui avait été inaugurée il y a 30 ans avec faste dans la présence du Politburo. Le socle, aujourd'hui vide, n'est au centre des rituels politiques que le 1er mai, quand des membres de minuscules partis politiques qui s'autodéfinissent comme des successeurs du Parti communiste, il s'agit de l'Alliance socialiste et du soi-disant nouveau Parti communiste, les représentants de ce parti se ressemblent pour protester contre l'exploitation capitaliste. Toujours en mars 1990, est adopté un premier acte normatif concernant la nécessaire décommunisation de la toponymie.
Il s'agit d'un décret-loi qui visait ce que j'ai appelé la décommunisation de la toponymie et qui justifiait ce nécessaire changement de la toponymie. Et je vais citer, il justifie la nécessité par la victoire de la révolution du 22 décembre 1989, qui fait que bon nombre des anciennes dénominations de rue renvoient à l'ancienne dictature et donc ne sont plus, je cite, en concordance avec le renouvellement de la vie politique et sociale de la Roumanie. Ainsi, les dates et les personnages symboliques pour le communisme sont remplacés très vite avec des références au passé monarchique ou à l'entre-deux-guerres ou à d'autres événements historiques ou à la révolution de décembre 1989. Le boulevard Gheorghe Gheorghiu-Dej, le premier leader communiste après l'installation du régime communiste, devient le boulevard La Reine Elisabeth, le boulevard La Victoire du Socialisme devient le boulevard de l'Union, etc. Et ces métamorphoses toponymiques continuent tout au long des années 90. Par exemple, la place Karl Marx, Friedrich Engels, devient en 1992 place Christopher Colomb. Et chaque métamorphose est justifiée et expliquée au public dans ces décrets-loi. Mais si le panthéon soviétique disparaît à l'instant de la scène publique, celui d'un autre régime totalitaire en sort totalement différent, je dirais, après la révolution de 1989, dans la Roumanie, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. Les personnalités historiques des régimes nazis et des régimes fascistes réintègrent symboliquement l'espace public. En Roumanie, plusieurs statues du maréchal Antonescu ont été érigées tout au long des années 1990 et au début des années 2000 à l'initiative des formations politiques d'extrême droite. En 2002, le gouvernement roumain adopte une ordonnance d'urgence qui interdisait les organisations à caractère xénophobe et les cultes des personnes coupables des crimes de guerre ou le culte des personnes qui avaient commis des infractions contre l'humanité. Quelques mois après, alors que les autorités politiques de plusieurs départements étaient en pleine campagne de démolition des statues récemment érigées, des statues d'Antonescu, et étaient en pleine campagne de changer de nouveau les dénominations des rues qui avaient été renommées après la chute du régime communiste, la commission Helsinki fait savoir aux membres du gouvernement qu'un portrait d'Antonescu se trouvait justement dans le siège du gouvernement, dans la galerie de premier ministre. Il y a eu une réaction très agressive de la part de plusieurs parlementaires contre cette remarque. Et vers le milieu des années 2000, la majorité des statues emplacées dans différents espaces publics furent détruites. Et la réaction de l'extrême droite ne tarde pas l'officieux du parti extrémiste Grand Roumanie dénoncer ce qu'il appelait le deuxième assassinat du maréchal Antonescu. La raison pour laquelle j'ai invoqué tous ces changements toponymiques est simple. Je crois qu'il y a des similitudes évidentes entre la démythisation et la rémythisation des personnalités historiques et les politiques du passé telles qu'elles sont envisagées après la chute des régimes communistes. Ces décisions en matière de politique urbaine sont loin d'être dépourvues de signification si l'on essaie de comprendre le processus politique et juridique de gestion du passé dans les régimes post-communistes. Et comme remarqué par Crinson, la mémoire urbaine, donc les monuments urbains, mais aussi la toponymie, fonctionnent comme des tropes métaphoriques donc, qui indiquent la relation des citoyens avec les faits du passé, mais en même temps, les monuments portent le message de l'État ou du pouvoir politique tel qu'il est imaginé, le message sur le passé qui doit être mémorialisé ou sur le passé qui doit être oublié.